marche non plus. Shh. non. La pointe ultime de la révélation. Le prologue. L'alpha. Et la blessure du cœur. Le verbe est devenu chair. Et la chair, dans le sens le plus éminent, c'est le cœur. Et la blessure du cœur qui montre la plaie, c'est la chair vive et qui saigne là où il sent. Et c'est l'ultime moment de la révélation. Et pour nous, c'est important de comprendre cela, puisque toute la révélation consiste à nous révéler que Dieu est amour. Ce que du reste, Jean nous dit dans sa première épître, au terme de sa première épître. Toute la révélation, c'est pour nous montrer cette sagesse de Dieu qui est lumière et amour. Et c'est à travers le geste le plus éloquent et le plus terrible aussi, la blessure du cœur, où la passivité est extrême, puisque ce cœur a cessé de battre. Et la violence la plus totale, puisque normalement on respecte le cadavre, et on n'a pas respecté le cadavre du corps du Christ. C'est à travers ce geste de la blessure du cœur que la révélation s'achève. L'amour s'exprime d'une manière ultime à travers la blessure du cœur de Jésus. Le cri de soif ne suffit pas, parce que la parole, même le cri, ne peut pas exprimer de la manière la plus parfaite le mystère de l'amour. C'est le geste, et il y a comme une espèce de complémentarité étonnante entre le cri de soif, qui est le grand élan de l'amour, l'aspect extatique, l'au-delà du sacrifice, mais à travers le sacrifice. C'est l'au-delà de l'amour qui porte le sacrifice. Et ce cri de soif exprime bien ce qu'il y a de plus pur et de plus fort, extatique dans l'amour. Et en même temps, la blessure exprime ce qu'il y a de plus passif, de plus réceptif. Cet abîme de passivité de la blessure du cœur, les deux extrêmes de l'amour, qui termine la révélation. La révélation se fait toujours à travers la parole et le geste. Et c'est à travers la parole et le geste que nous retrouvons ce moment ultime de la révélation. Saint Augustin a très bien compris ça quand il a mis ce parallélisme si étonnant entre la Genèse, la création de la femme, à partir du geste de Dieu chirurgien qui plonge Adam dans la torpeur cet or, nous pouvons, à partir de cette ultime révélation, essayer de préciser maintenant toute la théologie au grand sens du mot, c'est-à-dire le logos, la parole sur Dieu, qui nous est révélée à travers l'évangile de Saint Jean. c'est lumière de la lumière, le paraclet, il est l'amour de l'amour. Et l'amour de l'amour, c'est le secret du secret. Je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose de plus intime dans la très sainte Trinité, puisque il y a l'unité et la simplicité parfaite en Dieu. Mais nous ne pouvons pas saisir ce mystère de fécondité ultime. Le Verbe est fruit de la fécondité. Et l'Esprit Saint, c'est le fruit du fruit. C'est comme ce qu'il y a de plus secret. Et c'est en même temps ce qui nous est communiqué en dernier lieu pour nous faire entrer dans le mystère du Père et dans le mystère du Fils. Puisque sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas découvrir le mystère du Père. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de dire Abba, Pater. Et tout l'évangile de Jean nous apprend cette filiation. Et c'est l'Esprit du Père et du Fils qui fait de nous des vrais fils bien-aimés. Et c'est tout le mystère de notre vie chrétienne, de découvrir cette filiation sous le souffle de l'Esprit Saint. C'est le rôle de l'amour. Et le rôle de l'amour dans ce qu'il a de plus profond, c'est de faire découvrir la source de toute lumière et de tout amour, le Père. C'est de nous donner cet esprit de filiation. Nous avions déjà vu cela à propos de Nicodème, à propos de cet entretien de Jésus avec Nicodème. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. Là, nous découvrons bien comment l'Esprit Saint nous fait comprendre cette filiation d'amour à l'égard du Père. L'Esprit Saint se révèle lui-même en nous révélant que nous sommes fils. Et que nous sommes fils par le Fils et dans le Fils. Nous ne sommes pas des fils lointains. Nous sommes des fils tout proches du Père, puisque c'est par le Fils bien-aimé et dans le Fils bien-aimé que nous sommes fils. Et l'Esprit Saint nous fait découvrir que c'est comme le Fils in sinu patris, dans le sein du Père, dans ce qu'il y a de plus caché, de plus intime en lui, de plus personnel, que nous sommes fils et que nous découvrons le Père. Le paraclet, on le traduit habituellement comme le consolateur, le défenseur, tout ça c'est bien, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous fait dévier de la personne. Rien n'est plus personnel que l'amour. Rien n'est plus personnel, si j'ose dire, en Dieu, que l'Esprit Saint, que le paraclet. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à ses fonctions, consolateur, défenseur. C'est bien plus que ça, c'est Dieu dans son écoute. Parce que quand on aime, on écoute. Pour moi, la première révélation de Dieu, amour et paraclet, c'est ce passage si émouvant de l'Écriture. Lorsqu'on voit Agar chassée, parce que Sarah ne peut pas supporter sa présence, parce qu'elle ne peut pas supporter la présence du petit Ismaël, qui est plus âgé, qui a un droit d'aînesse, bien qu'il soit le fils de la servante, elle est quand même l'aîné. C'est insupportable pour Sarah. C'est insupportable qu'Ismaël soit plus âgé qu'Isaac. Et donc, il faut le chasser. Et elle est obligée de partir au désert, Agar, avec son fils, avec une petite provision d'eau que lui donne Abraham. Et quand l'eau est épuisée, le fils, le petit enfant, gémit, il crie. La mère l'écoute un certain temps et ça lui fait trop mal d'écouter le gémissement de l'enfant sans pouvoir symbolisme merveilleux, divin, de l'écoute de Dieu. L'homme a une capacité limitée d'écouter les gémissements des enfants, des mourants, des agonisants. Et à un moment, on ne peut plus. Parce que notre amour n'est pas substantiel. Parce que notre amour n'est pas notre personne. Quand l'amour est la personne elle-même, alors il y a une capacité infinie d'écoute, de réceptivité, de recevoir. C'est ça le paraclet. C'est cette capacité infinie de Dieu d'écouter les gémissements de l'enfant. Et si Saint Jean nous parle du paraclet, Saint Jean veut nous faire comprendre quelque chose d'infiniment mystérieux en Dieu. J'allais dire sa vulnérabilité d'écoute, d'accepter de porter tous les gémissements, toutes les souffrances, de les porter et de les transformer par l'amour. Rien n'est rejeté de ce qui est humain. Dieu a pris tout l'homme dans tous ses gémissements, dans toute sa fragilité, dans toute sa précarité. Il a tout pris. Le paraclet qui vient à la suite du Christ, c'est Jésus qui l'envoie, c'est le Père qui l'envoie, pour nous faire comprendre de l'intérieur tout ce qu'a dit Jésus. Nous avons toujours la tentation de voir Jésus de l'extérieur. Et voyant Jésus de l'extérieur, on ne comprend pas qu'il est le secret du Père et que tout doit être vu de l'intérieur. L'Esprit Saint y reprend tout pour nous faire revivre tout de l'intérieur. C'est le grand mystère du paraclet, celui qui nous permet de vivre de l'intérieur, dans une intériorité d'amour du Père et du Fils, et de comprendre cette vulnérabilité infinie du mystère du Père, cette vulnérabilité infinie du mystère du Fils. Le paraclet nous révèle la blessure du cœur, de l'intérieur. Il nous la fait comprendre comme Marie l'a compris, comme Marie l'a vécu. La blessure du cœur de Jésus pour Marie, elle a été vécue au plus intime de son cœur, comme si c'était elle-même qui la vivait, et même plus encore, puisque Jésus est plus elle-même qu'elle n'est elle-même. Et donc la blessure du cœur de Jésus, de son Fils bien-aimé, a été pour elle quelque chose d'encore plus intime que si c'était la blessure de son propre cœur. Et alors nous découvrons cette vulnérabilité unique de l'amour de Dieu qui est mis dans notre cœur pour que nous puissions découvrir ce que, humainement parlant, nous ne pouvons pas découvrir, ce que notre intelligence ne peut pas dire, Jésus est celui qui est l'icône dans son humanité sainte, qui est l'icône parfaite de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'humanité sainte de Jésus qui subsiste dans le Verbe, puisque le Verbe est devenu chair, comme l'écho, l'image, mais parfaite du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et je crois que nous pouvons alors découvrir cela dans l'évangile de Jean d'une manière très, très étonnante. Sous l'action de l'Esprit Saint, Jésus est l'agneau, il est le pain, il est la porte. L'image accepte d'être immolée, d'être broyée, blessé à mort pour être pour nous la vraie porte qui nous fait entrer dans la très sainte Trinité. C'est la blessure du cœur. Il accepte d'être peint totalement à notre service. Le serviteur par excellence est la nourriture, un service substantiel. Il est l'agneau, la victime innocente, la victime qui n'est qu'amour. Si, dans l'Écriture, le point de vue du taureau est la victime la plus parfaite, cependant, ce qu'il y a de propre dans le mystère du Christ, c'est d'être une victime d'amour. J'allais dire, le taureau, c'est l'aspect de la puissance qui est immolé. L'agneau, c'est l'amour. Il y a une intimité beaucoup plus profonde. Et je crois que nous devons comprendre comment l'Esprit Saint qui anime le cœur de Jésus, puisque Jésus est vraiment le serviteur de Dieu qui vit sous l'emprise de l'Esprit Saint. C'est une des choses qui me frappe beaucoup dans l'évangile de Jean. Jean n'a pas parlé des béatitudes. Jean n'a pas parlé béatitude qui nous montre l'action de l'Esprit Saint dans l'âme, mais il a montré Jésus vivant de l'Esprit Saint et vivant des béatitudes. Et si on veut comprendre combien Jésus est sous l'emprise de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de l'amour, on comprend qu'il est l'agneau par excellence. On comprend qu'il est l'agneau entièrement donné à chacun d'entre nous et qu'il est la porte, l'agneau immolé. Jésus, c'est le Verbe de Dieu qui se manifeste par son incarnation. C'est le Verbe de Dieu qui est dans le sein du Père, qui nous est donné et qui est présent au milieu de nous. Et alors nous comprenons comment l'époux le point de vue du bon pasteur et la lumière du monde, c'est vraiment le mystère du Verbe qui, par son incarnation devenu chair, se donne à nous comme époux dans un choix libre, aimant, pour faire une œuvre commune avec nous dans l'amour. L'Église est l'épouse. L'Église reçoit la lumière de Jésus. Il est la lumière du monde. L'Église se laisse conduire par le bon pasteur. Et ce qui est vrai de l'Église est vrai de chacun d'entre nous, puisque l'Église est ce tissu d'amour dans la charité fraternelle qui fait que chacun d'entre nous, nous sommes liés à Jésus dans cette alliance d'amour. Et enfin, le Père est tout proche de nous par Jésus, puisqu'il est l'envoyé. vision d'Apocalypse du sacerdoce glorieux du Christ. Nous sommes un royaume de prêtres. On a de la peine à comprendre ça, du reste. Mais c'est comme l'ultime moment. Parce que le sacerdoce, c'est une médiation d'amour. C'est la médiation du Fils bien-aimé, sous le souffle de l'Esprit Saint. Et le mystère de la gloire et de la résurrection, où notre corps participera à la gloire même de Dieu, c'est un mystère sacerdotal. C'est pour ça qu'il est montré dans l'Apocalypse. Le Christ, dans sa gloire, c'est le grand prêtre. Et immédiatement proche de Jésus, dans Saint Jean, voyons le mystère de Marie, identifié au mystère de la femme. La grande vision de l'Apocalypse. La femme, dans son mystère de fécondité, dans son mystère de mère, dans l'Évangile, nous voyons la femme à Cana, c'est Jésus qui l'appelle femme, et à la croix, ici encore, trois fois, la femme est proclamée, révélée, et serait important de comprendre cette triple affirmation dans l'unité. Je veux dire, avec cette audace d'un théologien qui était un franciscain, en disant Marie complementum totius trinitatis. On comprend très bien ce que ça veut dire. Elle est comme le rayonnement. Et la femme quelque sorte Jésus dans sa vie de miséricorde. Il nous fait comprendre que tout de suite, toute cette vie apostolique de Jésus, elle est liée à la croix. Si Saint Jean nous fait entrer profondément d'une façon nouvelle dans le mystère de Marie, Luc montre avant tout Marie comme la mère de Dieu. Et Jean, délibérément, sous le sceau de l'Esprit Saint, nous présente Marie comme la femme, comme le chef-d'œuvre ultime de la création et de la recréation, comme le chef-d'œuvre ultime du mystère de la croix, comme celle qui nous montre ce que nous avons besoin, nous, de voir la fécondité de la croix. Et elle nous montre comment elle est ce chef-d'œuvre de la croix. Face à la femme, nous avons tout de suite la vision du dragon, le serpent antique, l'adversaire, comme la femme est le reflet de la très sainte Trinité pour nous, par l'humanité sainte du Christ, par le corps du Christ, par le cœur blessé de l'agneau, et par la sagesse l'ennemi, l'adversaire, le dragon, le serpent antique, selon le langage de l'Apocalypse. C'est comme l'antithèse vivante, volontaire, du mystère de la très sainte Trinité. Le démon ne sait plus ce qu'est le mystère de Dieu dans son amour. Il sait Dieu est créateur et tout puissant. Et c'est cette toute puissance de Dieu qui l'agace. Il la respecte parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est trop intelligent pour nier l'existence de Dieu. Mais cette existence de Dieu et cette présence de Dieu lui est insupportable. Et nous voyons bien en lui cette espèce de d'opposition à la très sainte Trinité. Nous oublions trop qu'il s'oppose en rejetant le mystère de l'incarnation, en rejetant le mystère de la femme. Il s'oppose au mystère même de la très sainte Trinité, qu'il ne connaît plus. Et c'est pour ça qu'il en fait comme une caricature. Il est l'adversaire. Il s'oppose à l'esprit d'amour. Il est le serpent, c'est la ruse qui s'oppose à la sagesse, à la lumière, au Verbe. Et il est le dragon qui veut imiter la puissance et la toute-puissance du Créateur. Il veut prendre la place du Créateur. Ce qu'il cherche, c'est qu'on l'adore. Il veut prendre la place du Verbe. Il veut prendre la place de l'Esprit Saint. Il ne cherche que cela. Il sait qu'il ne peut pas. Mais il veut détourner l'homme. Il veut détourner Marie, la femme. Il veut la détourner de sa mission d'être toute relative à Jésus, d'être toute relative à la très sainte Trinité. Et là, Saint Jean, dans son Apocalypse et dans le chapitre 8 de l'Évangile, nous montre d'une manière extraordinairement forte ce que représentent ces attaques perfides du démon et toute la stratégie du démon à l'égard de Marie et à l'égard de l'Église. Jean, dans son Évangile et dans son Apocalypse, et dans sa première épître, nous montre un visage très intérieur de l'Église. L'Église c'est celle qui est gardienne du secret. Je crois que c'est ça le grand symbolisme de la femme. C'est celle qui est gardienne du secret qu'elle reçoit de Jésus. Elle est la bonne terre. Gardienne du secret pour que ce secret en elle porte tous ses fruits. Et l'Église, c'est le lieu de cette fécondité. Et cette fécondité, c'est le mystère de la charité fraternelle. Saint Jean nous découvre là ce qu'il y a de plus grand dans le cœur de Marie et dans le cœur de l'Église. C'est de répondre à cet amour du Christ tout à fait gratuite et ultime à la croix, d'y répondre par la charité. C'est une charité fraternelle qui ne peut rester vraie que grâce à l'adoration. Les deux pôles de l'Église, c'est l'adoration et c'est la charité fraternelle. L'adoration qui était donnée déjà dans la première alliance, dans l'Ancien Testament, qui est reprise de l'intérieur. Les adorateurs en esprit en vérité, et qui doit s'achever dans la charité fraternelle. C'est par là qu'on est de vrais témoins de Jésus, dans la mesure où on s'aime. Et cette charité fraternelle est victorieuse de toutes les jalousies. Parce que l'adversaire, l'anti-paraclet, c'est celui qui suscite les rivalités et la jalousie, la cisanie. Or, les plus grandes luttes, c'est toujours à partir de la jalousie. C'est ça qui divise le frère contre le frère, qui divise le père contre ses enfants, c'est la jalousie. Et l'évangile de Jean, d'une manière très spéciale, nous montre comment la charité fraternelle doit être victorieuse de toutes ces jalousies qui proviennent de l'adversaire. Et il nous montre comment le dragon, le serpent antique, l'adversaire, va attaquer par la bête de la terre et la bête de la mer, va toujours avoir cette double attaque en essayant de séduire par la puissance. Et en essayant de supprimer en nous la soif de vérité, en nous mettant un scepticisme radical. C'est pas la vérité qu'on doit chercher, c'est la réussite, c'est le pouvoir. Pervertir l'intelligence pour mettre au-dessus de tout le pouvoir, la domination. Je crois que c'est là où on saisit l'attaque la plus pernicieuse du démon sur la femme et l'Église. Et enfin, dans l'Apocalypse, il nous est montré le fruit de ces attaques du démon, la Babylone. Et le fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la Jérusalem céleste. Comme Jésus affirme en dernier lieu, je suis la résurrection, il est la gloire, est affirmé dans la grande révélation d'Apocalypse. Ce fruit ultime de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la femme et dans toute la descendance de la femme. Ce grand mystère de la Jérusalem céleste, les noces avec l'agneau. La Jérusalem céleste qui est tout illuminée de la lumière de la blessure de l'agneau. Mais l'anti-Jérusalem céleste, c'est la Babylone. C'est la femme assise sur la bête et qui essaie de détourner toujours l'homme de l'adoration. ultime fleur de l'amour dans la charité fraternelle, la double attaque de la bête de la terre et de la bête de la mer.
Père, est-ce que toute cette vision spirituelle que vous avez à travers l'évangile de Jean vous aide ensuite à regarder d'une nouvelle manière toutes les grandes luttes du monde d'aujourd'hui et tous les enjeux dont on parlait avant de cette fin du siècle? Est-ce que ça vous donne une nouvelle lumière sur ce que vit l'humanité aujourd'hui?
Pour moi, personnellement, ça m'éclaire énormément. Et je dirais, ce qui me frappe le plus, c'est cette correspondance étonnante de notre pauvre petite intelligence qui cherche la vérité et qui découvre dans notre monde d'aujourd'hui et surtout à travers les idéologies athées les grandes blessures, les grandes attaques, les grandes erreurs. Et puisque Saint Jean lui-même nous montre en ce sens que dans cette lumière de Saint Jean nous voyons que les attaques ultimes, donc les attaques apocalyptiques, les tremblements apocalyptiques, nous les vivons actuellement. Et ça, c'est dans la lumière de Saint Jean. Saint Jean montre que l'attaque la plus pernicieuse du démon sur la femme et sur l'Église, donc la femme Marie et la femme Église, c'est le mystère de la fécondité. Et j'allais dire, c'est compréhensible, puisque si Dieu a voulu créer son chef-d'œuvre ultime dans l'homme et la femme, c'est pour pouvoir communiquer à l'homme et à la femme ce grand mystère de la fécondité. Que l'homme et la femme, petites créatures de Dieu, puissent devenir eux-mêmes source de vie. Les anges de et c'est cela qui irrite le plus le démon. Or, l'alliance fondamentale de l'homme avec Dieu, c'est bien la procréation. C'est l'alliance la plus radicale et la plus foncière. Et je crois que c'est l'attaque la plus pernicieuse et la plus forte dans notre monde. Le démon ne peut pas, l'adversaire, le dragon, le serpent antique, ne peut pas accepter cette fécondité. C'est pour ça qu'il y a une inimitié entre la femme et le dragon et le serpent. Parce qu'il ne peut pas accepter ce mystère de fécondité. Fécondité au niveau biologique. Ben, nous savons très bien toutes les attaques aujourd'hui pour détruire la famille. La famille était gardienne de la fécondité. On veut montrer que la famille n'est plus gardienne de la fécondité et que l'homme va dominer la fécondité et pourra la maîtriser comme il le veut. Alors il y a une attaque extraordinairement perfide parce que ce n'est pas pour le bien de l'homme et de la femme pour qu'ils s'aiment plus. Et pour le fruit parfait de leur fécondité, toutes ces recherches. C'était la bonne remarque, je me souviens d'un paysan qui une fois m'a arrêté. Il m'a dit, père, expliquez-moi un tout petit peu ce que c'est que cette fécondité artificielle dont on parle aujourd'hui. Je n'y comprends rien du tout. Alors, son bon sens. Alors j'essaie de lui expliquer. Il dit, mais je comprends pas, c'est pas plus agréable. Je voyais que cet homme qui était un bon paysan chrétien montrait tout de suite que de fait c'est vrai. On se passionne pour ça aujourd'hui. Il y a derrière cette attaque très pernicieuse. Et c'est bien ce que Saint Jean nous montre. Le dragon face à la femme qui enfante. C'est Marie, c'est l'Église et c'est la femme. peut regarder l'amour dans ce qu'il a d'ultime. Ça fait quantité. Et on veut tout ramener à l'efficacité. L'homme domine l'efficacité. L'homme est obligé de reconnaître que dans le domaine de la fécondité et dans le domaine de l'amour, il est en face de la gratuité de quelque chose qui est au-dessus de lui, dont il peut vivre s'il en accepte cette gratuité. Et l'autre attaque très pernicieuse, c'est l'autre alliance. Je crois qu'il y a deux alliances naturelles de l'homme avec Dieu, et je dis bien deux alliances naturelles. Donc que le philosophe doit pouvoir comprendre s'il va jusqu'au bout de sa recherche philosophique, c'est-à-dire s'il considère que sa philosophie implique une sagesse. L'autre alliance est l'alliance de l'intelligence avec Dieu. Notre intelligence a quelque chose de sacré puisqu'elle est capable d'atteindre Dieu. Et le sacré, c'est bien ce qui est immédiatement relié à Dieu. À la différence du profane, qui est la relation de l'homme avec l'homme. Tandis que dès que je suis en présence de Dieu, c'est ce qu'on voit dans l'Écriture, ce passage merveilleux de Moïse qui enlève ses sandales. Parce que cette terre est sacrée, il y a une présence de Dieu dans le buisson ardent. L'autre alliant, l'autre aspect, par où l'homme est relié directement à Dieu, c'est son intelligence. Capax Dei, capable d'atteindre Dieu, capable de découvrir la présence de Dieu, de découvrir celui qui est notre Créateur, devant lequel le double geste de l'Écriture, je me déchausse pour me mettre dans la pauvreté, et j'enlève ma couronne pour aussi reconnaître ma pauvreté, et j'adore. Aujourd'hui, l'attaque magistrale qui pervertit l'intelligence, c'est de ramener l'intelligence à la raison, à la logique, pour me faire croire que l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus elle-même, c'est uniquement les recherches mathématiques, scientifiques, et que la philosophie doit être mise au loin. Ce que Auguste Comte disait hardiment, on le dit de façon plus polie aujourd'hui, mais c'est la même chose qui continue. La philosophie première, métaphysique, c'est pour les enfants. On ne doit plus rechercher le pourquoi, donc la finalité. On doit rechercher uniquement le comment. C'est la seule chose qui est d'ordre utile. C'est la seule chose qu'on doit garder. Tout se ramène à cette connaissance rationnelle, scientifique, à cette technique. Je crois que c'est la seconde attaque qui devrait se rejoindre à la première. Puisque une intelligence, quand elle recherche la vérité et qu'elle découvre l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu comme créateur, est une intelligence qui est au service de l'amour. Parce que je sais que c'est par l'amour que Dieu, le bien suprême de l'homme, est plus proche de moi. C'est très curieux. Capable d'aimer et d'aimer spirituellement, capable d'adorer que de mon intelligence. Mais mon intelligence est nécessaire pour purifier mon cœur et lui permettre d'être dans cette proximité vis-à-vis de Dieu. Bien, je crois que les deux grandes luttes souterraines, l'une est beaucoup plus ancienne. Elle a mis du temps, mais aujourd'hui elle s'étale, elle se proclame avec toutes les idéologies athées. L'intelligence.
l'intelligence n'a rien à faire avec le problème de Dieu, des traditions religieuses. Rien du tout. Et donc, la métaphysique, la philosophie première, c'est terminé. Il ne faut plus que les mathématiques et les sciences. Vous voyez, les deux alliances, l'une fondamentale, l'autre ultime. L'alliance dans la procréation, l'alliance dans la recherche de l'existence de Dieu pour que mon adoration soit vraie, soit limpide, ne soit pas imaginative, ne soit pas romantique. Ces deux alliances sont évacuées. Eh bien, je crois que l'évangile de Saint Jean nous montre de manière éclatante, grâce à l'Apocalypse et grâce à l'évangile, que c'est bien les deux attaques les plus perfides du dragon et du serpent. Serpent veut pervertir l'intelligence humaine et le dragon veut dominer. Et il sait que tant qu'il ne dominera pas sur la fécondité et donc sur la famille et donc sur l'amour, il ne dominera pas parfaitement. Et donc il faut tout faire pour arriver à faire que l'intelligence ne soit plus ordonnée à l'adoration et à la contemplation, recherche de la vérité, et que l'intelligence soit une intelligence uniquement ordonnée à l'efficacité, à la technique, à la domination par rapport à notre monde. Je crois que c'est les deux pointes, et ça, c'est clair et c'est très net quand je regarde l'Apocalypse d'une façon très intérieure, c'est-à-dire en essayant vraiment de la comprendre. Et c'est bien, je crois, ce que Saint Jean veut nous révéler. La révélation la plus intime, c'est le mystère de la paternité. Or, est-ce que dans les idéologies contemporaines athées, est-ce que ce n'est pas la lutte contre la paternité qui est la lutte la plus profonde? J'ai étudié les idéologies athées en philosophe. Ça m'a beaucoup frappé de voir que ces idéologies athées, si on les regarde dans leur ensemble, et si on les regarde non plus seulement en tant que philosophe, mais en tant que théologien, sont toutes, je l'ai déjà dit, des antichrists. Et toute recherche a donné à l'homme, soi-disant, une nouvelle béatitude. Toutes ces idéologies athées sont contre les béatitudes évangéliques et sont en opposition vis-à-vis des sept dons du Saint-Esprit, l'emprise de l'Esprit Saint sur nous. Elles nous conduisent tous au chiffre de la bête, qui est un chiffre d'homme, et qui est l'homme qui se replie sur lui-même et qui prétend découvrir par lui-même son propre bonheur. Et au cœur de toutes ces idéologies athées, bien qu'elles soient anarchiques, il y a quand même quelque chose de central. Celle qui s'oppose le plus aux béatitudes évangéliques, à l'enseignement de l'Esprit Saint sur nous, c'est, je crois, cette idéologie freudienne où on chasse le point de vue de la paternité, où le père n'est plus un vrai père parce qu'il n'aime plus, parce qu'on confond autorité et pouvoir, et le père est toujours tyrannique parce qu'il écarte de l'enfant la mère, qui est de premier dans la paternité. Le père exerce autorité dès que vous regardez le mystère des relations de Dieu et de la créature. Et donc, ce n'est plus uniquement la paternité, c'est une manière particulière dont la paternité s'exerce. Elle s'exerce en tant que créateur. Et c'est la toute-puissance du créateur qui s'exerce d'une manière paternelle. Ce n'est plus la paternité en elle-même. Je crois très important pour nous de redécouvrir la finalité propre du Père et les manières particulières dont cette paternité se révèle. Je reviens à ce que je disais tout à fait au début, le point de vue de la finalité et le comportement. On a identifié un comportement paternel avec le Père. Et en condamnant ce comportement tyrannique du pater familias, on a rejeté le point de vue de la paternité. Et en rejetant le point de vue de la paternité, on a rejeté la source de l'amour. Puisque la source de l'amour, c'est le Père. Je crois ça capital. Et c'est l'évangile de Jean qui peut nous faire comprendre de la manière la plus profonde ce mystère du Père, source d'amour.
Au-delà de l'athéisme de notre monde occidental, il y a tout voilà. Un monde, notamment oriental, avec d'autres grandes religions, exactement. D'autres grandes traditions. Quel regard portez-vous sur elles?
Oui. J'ai souligné nettement les attaques, ou plus exactement les oppositions que l'Apocalypse nous montre, du serpent antique, du dragon et de l'adversaire. Et il faut comprendre que l'Esprit Saint se sert même de cela pour aller plus loin dans l'amour. Et rester uniquement au niveau de la lutte et de la défense, c'est pas suffisant, c'est pas chrétien. Ce serait encore une exaltation d'une espèce d'intelligence qui veut être lucide, saisissant les défauts de l'adversaire, mais qui ne comprend pas suffisamment que l'intelligence, plus elle est lucide, plus elle doit être au service de l'amour. Et c'est peut-être là que nous devons être très attentifs à ce que représente la dernière semaine telle que Saint Jean nous la montre. Cette semaine de la charité fraternelle et de la miséricorde, c'est le moment où les luttes sont les plus grandes. Le moment où le dragon croit être victorieux, où l'adversaire est persuadé qu'enfin ce Jésus étant cloué sur la croix et son prisonnier, on n'en parlera plus. Il vaut mieux qu'un seul disparaisse pour sauver les autres. Enfin, il va disparaître. C'est au moment de la plus grande lutte que le plus grand amour peut s'exprimer. On assiste aujourd'hui, c'est vrai, à cette unité de notre monde, de notre petite planète. Unité économique, nous le savons bien, mais aussi grâce à cette facilité étonnante de transport et de voyage. On sent un brassage qui se fait. On est en contact avec des religions qui avant étaient lointaines, qui maintenant sont toutes proches. Alors, est-ce que nous ne sommes pas justement devant cette sorte d'éclatement de la dernière semaine? Jésus, dans la dernière semaine, est en présence des Grecs directement à Jérusalem. Dieu parle grec sans doute, comme me disait un exégète à Jérusalem. Pour se faire comprendre de ces Grecs, Jésus est en face du pouvoir politique, César, voire le plus grand de l'époque, par Pilate, des grands prêtres, et ainsi de suite. Le chrétien, aujourd'hui, est en présence. S'il veut prendre un peu conscience de ce qui se passe, il est en présence, non pas seulement de ceux qui sont manipulés par ces idéologies athées, qui sont sous l'emprise de ces idéologies athées, mais il est en présence aussi de toutes ces religions anciennes. Quelle attitude doit-il avoir? Et comment l'évangile de Jean va nous éclairer sur cela? Nous avons une image merveilleuse de quelqu'un qui a ce regard joannique étonnant d'aigle, qui est notre pape. Ce geste qu'il a fait, qui a été tellement critiqué, parce qu'il est très grand. Alors si on le regarde au bout de la petite lunette, on ne voit rien du tout. On ne voit qu'un Bouddha à côté du pape. Et on ne comprend pas du tout l'intention profonde du pape. On ne voit pas ce qu'a fait le Saint-Père. Un geste étonnant, sous la mouvance de l'Esprit-Saint. C'est sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Réunir tous ceux de bonne volonté. Je crois que plus la lutte est forte, plus l'Esprit Saint est présent, puisque la grâce ne nous manque jamais. Et donc plus l'amour à l'égard du Père est présent. Je crois qu'on n'a jamais été aussi proche du Père que maintenant, à travers le Fils bien-aimé. Le chrétien, je parle. Et peut-être tous ceux qui sont de bonne volonté. Est-ce que ce mystère de la paternité de Dieu n'est-il pas à redécouvrir à travers toutes ces diverses religions dans ce qu'elles sont authentiques? Nous devons repenser cela et surtout, j'allais dire, le porter dans notre cœur. Toute religion, au grand sens du mot, c'est la créature reliée à son créateur. C'est la créature petit enfant du créateur. C'est la créature qui découvre la paternité. L'adoration est un acte d'amour et on se remet dans les mains de Dieu. On se remet vraiment le plus proche possible de Dieu. Et on est tout proche de Dieu par l'adoration. Comprendre ce mystère de l'adoration comme étant ce qui va être ce qui permet de montrer à tous les hommes de bonne volonté cette proximité de Dieu. Comme Père. Je crois que c'est très important cela, de redécouvrir cette paternité de Dieu. D'abord, ça nous met très proche des orthodoxes. Ça nous met très proche des protestants. Là, on est tous dans le Christ, proche du Père. Et si on est proche du Père, on est pacifié. Ça pacifie. Ça donne une merveilleuse sécurité. Et on est proche de tous ceux qui adorent. Parce que dans l'adoration, ils redécouvrent ce mystère d'amour du Créateur, ce mystère du Père, source de toute lumière, de tout amour. Je crois que c'est la première piste fondamentale. Et l'autre, c'est justement la charité fraternelle. Même ceux qui n'adorent plus, parce que on leur a donné une fausse idée de Dieu, parce qu'on leur a donné une fausse idée du Père, et qui voit avant tout et en premier lieu la toute-puissance paternelle. Il y a des gens qui ont très peur aujourd'hui de la paternité. Parce que pour eux, c'est la puissance. Alors, ils ont horreur de l'obéissance. Ils ont une frousse de l'obéissance. Parce que ça les met en tutelle. Et toute leur vitalité part du côté de la générosité. Alors, ne faut-il pas les atteindre, ceux-là, par le point de vue de la charité fraternelle, de ce lien profond qui nous lie entre nous, et de voir que la charité fraternelle, mais la charité fraternelle telle que Saint Jean nous la montre, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est tellement fort, cela. Revenir à la source de la charité fraternelle. Comprendre que la charité fraternelle, c'est Jésus qui se met au service de chacun d'entre nous. C'est Jésus, serviteur, lavement des pieds, le mystère de l'Eucharistie. Comprendre le mystère de l'Eucharistie qui nourrit notre charité fraternelle et qui nous fait comprendre ce que Jésus désire que nous fassions. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Si on lavait plus facilement les pieds de tous les hommes de bonne volonté, on serait bien plus proche d'eux. Parce qu'alors à ce moment-là, on comprendrait qu'on peut coopérer dans un amour généreux de don. Je crois que c'est les deux extrêmes de cette sorte d'éclatement de l'Église qui regarde son fondement et qui regarde ce qu'il y a d'ultime. Le point de départ, l'adoration, le terme ultime, la charité fraternelle. Et ce sont ces deux, dans le sens de l'Apocalypse, ces deux ailes du grand aigle. L'adoration, ce qu'il y a de plus profondément humain, et la naissance de tout amour. Et la charité fraternelle, ce qu'il y a d'ultime dans le cœur de l'homme, qui regarde son frère et qui l'aime. Aborder tous les problèmes d'aujourd'hui dans cette double lumière. En dernier lieu, sans le message propre du Christ, dans un renouveau parfait, les adorateurs en esprit, en vérité, et le don total de Jésus dans la charité fraternelle, si on prend ce langage-là, on pourra retrouver le cœur de tous les hommes de bonne volonté, ceux qui gardent des traditions religieuses. Quelquefois ont besoin d'être purifiés, renouvelés. Elles sont renouvelées par cette adoration qui doit aller toujours plus loin. Et les autres qui peut-être ont oublié ce mystère fondamental de l'adoration, il est possible de les reprendre du côté de cette générosité dans la charité fraternelle, dans cet amour du prochain, dans cet amour de l'autre, dans cette découverte de l'autre. C'est toujours les deux aspects extrêmes qui nous permettent de comprendre l'épanouissement ultime de l'amour. Nous devons aujourd'hui, dans cette Pentecôte d'amour, dans ce renouveau de l'Église, comprendre et vivre de ces deux extrêmes du cœur de l'homme et ces deux extrêmes transformés par Jésus pour celui qui croit dans le Christ et pour celui qui n'a pas encore découvert Jésus, découvrir dans son cœur ces deux aspects extrêmes par où il est ouvert, accueillant à tous les hommes.
Oui, vous disiez tout à l'heure que c'était la grande intuition du Concile Vatican II de redécouvrir ce mystère de la charité fraternelle qui doit être premier aujourd'hui. Et en même temps, le Concile Vatican II, par rapport aux grandes religions, a été aussi un tournant dans les relations avec le peuple juif, notamment. Oui. Où on peut quand même reconnaître que le christianisme a été beaucoup alimenté l'antisémitisme pendant des siècles. Et Vatican II a un langage complètement nouveau et a permis un tournant dans les relations entre l'Église et le judaïsme. Qu'est-ce que vous en pensez de cette place du peuple d'Israël ?
Et je crois qu'il rejoint bien l'intuition de Jean. Nous n'avons pas à juger. Et donc nous avons à aimer. Et on doit aimer le peuple d'Israël en tant qu'il a été, lui, choisi par Dieu. Et il reste choisi par Dieu parce qu'il a reçu le premier la parole de Dieu. Alors il est premier dans l'ordre génétique. Je reviens à les distinctions que nous avions au point de départ. Mais je ne dis pas qu'il est premier dans l'ordre de perfection. Ce serait oublier que Jésus vient tout achever, que Jésus vient achever la loi, et que je ne peux pas ramener Jésus à la loi. Il est plus parce qu'il est fils bien-aimé du Père, et qu'il est l'adorateur par excellence. Et donc, il est celui qui vient montrer l'achèvement. Alors, je crois qu'à l'égard du peuple d'Israël, je sais très bien qu'il y a des positions très diverses. C'est très mystérieux, mais c'est très important. J'avais fait cette petite expérience avec le peuple d'Israël, avec certains rabbins qui n'étaient pas